Je suis dans le chapitre 6 de l'évangile de Marc. Jésus a enseigné la foule et il se fait tard. Je continue le texte. Alors Jésus ordonna à ses disciples de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains. Puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Versets 39 à 44. La description frappante que donne l'auteur suggère que le récit provient d'un témoin oculaire, sans aucun doute, l'apôtre Pierre. Nous sommes au printemps, car l'herbe est verte. L'organisation de tous ces gens en groupes de personnes bien rangées, de 100 et de 50, contraste avec la foule sans berger mentionnée précédemment. Jésus, agissant comme l'hôte du repas, celui qui invite, prononce la bénédiction juive habituelle sur les 5 pains et sur les 2 poissons. Jésus regarde au ciel, considéré comme la demeure de Dieu, en dépendant du Père pour fournir miraculeusement la nourriture. Le temps des verbes indique que le pain se multipliait sous les mains de Jésus et que les paniers vides se remplissaient tout seuls. Les femmes et les enfants étaient groupés à part selon les coutumes juives et n'étaient jamais comptés. Suite à ce miracle, Jésus est pressé de partir. Je continue. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Versets 45 et 46. L'urgence est rendue par les mots « aussitôt après, Jésus pressa ses disciples ». Jean, dans son évangile, explique que la foule excitée voulait faire de Jésus leur roi par la force si nécessaire. Jésus sentit donc le danger potentiel de cette fièvre messianique et voulut la refroidir en partant au plus vite. Fatigué et stressé, il avait besoin de communier avec son Père et se retira donc dans ce but. Je continue. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Versets 47 à 48. Jésus continua à prier longtemps après minuit. Il semble que chaque fois que Jésus est absent, les disciples se retrouvent dans de sales draps. Entre 3 et 6 heures du matin, Jésus les rejoint à pied et veut les rassurer, mais cela a l'effet contraire. Je continue. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Versets 49 à 50. « Rassurez-vous » sont des mots familiers de l'Ancien Testament adressés à des personnes en détresse. « C'est moi » peut aussi être traduit « Je suis celui qui suis », faisant écho à la formule par laquelle Dieu se révéla à Moïse dans le livre de l'Exode de l'Ancien Testament. Je continue. Puis il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba, ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Versets 51 à 52. Dès que Jésus monte dans la barque, tout se calme autour d'eux. C'est une nouvelle démonstration de sa maîtrise sur la nature. Les disciples sont à nouveau en état de choc et Marc explique honnêtement qu'ils n'ont rien compris au miracle de la multiplication des pains. Donc ici, c'est pareil. Ils n'arrivent pas à saisir l'identité du Christ. C'est comme s'ils avaient de la peau de saucisson devant les yeux. L'incrédulité des disciples est quand même difficile à comprendre car ils vivent avec Jésus jour et nuit et le voient continuellement à l'œuvre. Je continue. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth où ils amarrèrent leur barque. Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Ils lui amenaient les malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Verset 53-56. À cause de la tempête, ils n'abordèrent pas où ils voulaient aller à l'origine, mais à Génézareth, une plaine fertile et populeuse qu'on surnommait le Jardin de Dieu. Cette région était connue pour ses sources minérales médicinales, ce qui en faisait un lieu de séjour pour les invalides. Les guérisons mentionnées n'étaient évidemment pas dues au toucher du vêtement, mais à l'action de Jésus qui, par grâce, honorait ce moyen par lequel les gens exprimaient leur foi en lui. Nous voici arrivés au chapitre 7 de l'Évangile selon Marc, dans lequel il va se passer encore pas mal d'événements. Ce passage commence en reprenant le thème du conflit entre Jésus et les chefs religieux. Ces derniers viennent à nouveau enquêter sur le Christ qui décidément n'en finit pas de les inquiéter. Sa popularité publique fait de lui une grande menace pour le pouvoir religieux en place. Ce passage sert de prélude au futur ministère de Jésus auprès des païens. Je commence à lire. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Verset 1. Voilà donc qu'apparaissent à nouveau les pharisiens et les scribes. Mais qui sont ces gens? Je vais en dire deux mots. La période de l'exil et la période intertestamentaire, c'est-à-dire les 400 ans qui séparent la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau, furent particulièrement riches en événements historiques qui affectèrent la nation d'Israël. De nouveaux partis et groupes firent leur apparition au gré des circonstances. Ainsi surgirent les pharisiens, les scribes, nom un peu désuet qui veut dire « spécialistes de la loi », ainsi que les sadducéens et les hérodiens. Les scribes, à l'origine, avaient une bonne raison d'exister et nous verrons cela plus tard. Néanmoins, ils avaient dégénéré et au premier siècle de notre ère, ils aimaient surtout couper les cheveux en quatre, étant particulièrement fascinés par les petits détails qu'ils croyaient discerner dans la loi de Moïse, plutôt que d'essayer de discerner l'esprit des commandements. Les pharisiens connurent eux aussi un bon début. Ils apparurent pour défendre le mode de vie juif contre toutes les influences païennes qui les environnaient. Ils disaient croire en la totalité de l'Ancien Testament, mais étaient devenus extrêmement légalistes. On les rencontrait en majorité à Jérusalem et dans les grandes villes, mais leur influence était néanmoins relayée dans les provinces par les scribes. Les sadducéens, quant à eux, étaient des gens riches, imbus d'eux-mêmes et intéressés par le domaine social. Très proches des épicuriens grecs, ils n'avaient absolument aucune profondeur spirituelle. Très libéraux dans leurs croyances, ils désiraient se débarrasser à la fois de la tradition de Dieu et du surnaturel. Ils étaient opposés aux pharisiens. Les hérodiens étaient un parti politique constitué d'opportunistes dont l'objectif consistait essentiellement à maintenir la dynastie des Hérodes au pouvoir, ce qui, bien sûr, leur remplissait les poches. Voilà en gros tous ces groupes auxquels Jésus, ses disciples et plus tard l'Église auront affaire. Je continue le texte. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Verset 2. Jésus-Christ ignorait volontairement les pratiques légalistes de son époque. En conséquence, une confrontation allait obligatoirement se produire tôt ou tard. Elle est provoquée par les pharisiens, ce sont eux qui cherchent des noises à Jésus et à ses disciples. Avant de nous raconter la bataille qui va suivre, Marc décrit à ses lecteurs païens ce que cette histoire d'impureté signifie. Je continue avec son explication. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Versets 3 et 4. Le lavement de mains est effectivement mentionné dans l'Ancien Testament comme rite de purification dans certains cas bien précis, ainsi que pour les prêtres qui prenaient leur service. Mais les pharisiens, à cause de leur idéal de pureté, avaient étendu ces exigences rituelles à beaucoup d'autres situations de la vie quotidienne, comme les repas. Pour eux, il était particulièrement important de faire les gestes convenables en revenant de la place publique, où un juif avait de fortes chances d'entrer en contact avec un païen impur ou des choses impures, comme l'argent. Ce lavement de mains rituel, à l'origine une simple coutume, était devenu une règle aussi rigide qu'une barre de béton. Ce précepte était si rigoureusement observé qu'un des fameux rabbins du nom d'Akiba, lorsqu'il fut emprisonné et ayant seulement l'eau nécessaire à le maintenir en vie, préféra mourir de soif que de manger sans se laver les mains. Donc il utilisa l'eau qu'on lui donnait à boire pour se laver les mains. Toutes ces nouvelles règles faisaient partie de la tradition des anciens qu'il suivait scrupuleusement. Toutes ces prescriptions, à n'en plus finir, dictaient chaque aspect de la vie juive et étaient considérées aussi importantes que la loi de Moïse elle-même, ce que Jésus ne manquera pas de dénoncer à leur grand dame. Le commentaire de Marc, comme quoi les Juifs avaient beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, indique que le problème discuté ici n'est que le sommet d'un gigantesque iceberg. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, cette montagne de rajouts qui était jusqu'alors transmise oralement sera rassemblée et codifiée dans ce que les Juifs appellent aujourd'hui la Mishnah, qui à son tour servit de base au Talmud, qui est le recueil des enseignements des grands rabbins au travers les siècles. L'Église catholique, qu'elle soit romaine ou grecque, possède également l'équivalent avec son catéchisme, ses dogmes et tout le reste. Pareil pour un certain nombre de familles d'églises protestantes, pareil pour l'islam et toutes les grandes religions. Dans le christianisme, ceux qui se disent évangéliques affirment ne pas suivre de tradition, mais seulement les préceptes des textes sacrés. Pour la plupart d'entre eux, c'est vrai. Je continue le texte. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se confirment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Verset 5. Les chefs religieux adressèrent leur interrogation critique à Jésus qui, en tant que maître des disciples, était tenu responsable de leur conduite. Les chefs juifs pensaient que le manquement des disciples concernant le lavage rituel était le symptôme d'un problème plus grave. Officiellement, ce qui les inquiétait, c'était que les disciples de Jésus ne suivaient pas la tradition des anciens dont ils étaient les dépositaires. Ça, c'est l'écran de fumée. Dans la réalité pure et dure, le vrai problème était celui de leur autorité bafouée et de leur pouvoir érodé. C'est ça qui mit le feu aux poudres. Jésus leur répond en les apostrophant. « Hypocrites !» leur répondit-il. Verset 6. « Maintenant, le duel est engagé. » La réponse du Christ n'avait pas pour but de calmer le jeu. Il a volontairement jeté de l'huile sur le feu. Un hypocrite est littéralement un comédien, à savoir quelqu'un qui joue un rôle sur scène, tout comme un pantin de plastique assis sur les genoux d'un ventriloque. Le cœur et les lèvres des pharisiens étaient déconnectés. Ces gens suivaient un rite qui faisait d'eux des personnages importants, ce qui leur procurait des revenus confortables et le respect du peuple. Mais en réalité, ils n'avaient que faire de la loi de Dieu. La situation que rencontre Jésus correspond à celle qui avait été dénoncée par le prophète Ésaïe, que Jésus cite presque mot pour mot. Il applique le reproche du prophète aux pharisiens. Je lis la suite de la réponse de Jésus. « Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, Il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Versets 7 à 8. Comme les Juifs de l'époque d'Ésaïe, les pharisiens enseignaient des commandements d'hommes comme s'il s'agissait de préceptes divins. Jésus les accuse d'abandonner la loi de Dieu au profit de la tradition des anciens. Il redéfinit donc leurs règles de vie en soulignant leur origine humaine et les rejette en bloc parce qu'elles ne font pas autorité du tout. Une tradition peut être bonne en soi et établie pour une très bonne raison. Cependant, si elle se substitue à la parole de Dieu, alors elle devient franchement mauvaise, voire mortelle, dans la mesure où les gens confient leur sort éternel à un système qui est faux. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait le judaïsme à l'époque du Christ. Cela me conduit à m'interroger sur ce que je crois vraiment. En fait, toute personne qui suit des préceptes religieux ferait bien de se poser quelques questions et de faire un tri entre ce qui vient véritablement de Dieu et ce qui est une invention de certains hommes, grands peut-être, mais faillibles. Je continue le texte. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. » Verset 9. Jésus enfonce le clou. Il énonce à nouveau son accusation selon laquelle les chefs religieux étaient habiles à esquiver la loi de Dieu pour garder leur tradition. Puis il défend ce verdict et le rend incontournable en citant une illustration flagrante qui met leur hypocrisie au grand jour. Je poursuis le texte. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. » Versets 10 à 12. Ce commandement, le cinquième, était considéré comme l'un des plus importants de la loi. Il s'adressait en particulier aux enfants adultes et incluait notamment de pourvoir pratiquement à tous les besoins des parents âgés, dont bien sûr le soutien financier. Selon la loi de Moïse, celui qui méprisait ses parents était passible de mort. Jésus cite une tradition des scribes qui esquivait le commandement divin. Il suffisait de faire le vœu inviolable que ses biens étaient une offrande à Dieu et le tour était joué. Ce don était fait sous forme de la promesse qu'après sa mort, l'argent restant irait au temple. En attendant, la personne qui avait prononcé la formule de consécration pouvait en toute liberté disposer de sa fortune tout en étant exempt du cinquième commandement, celui d'honorer ses parents en leur venant en aide. Ces derniers étaient légalement privés de tout recours contre cette pratique. Il ne leur restait que les yeux pour pleurer. Voici une des aberrations où conduit éventuellement la tradition. Les reproches que Jésus adresse aux religieux, « Mais vous, vous dites », sont particulièrement énergiques, soulignant le contraste avec les paroles de la loi. Je continue le texte. « Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Verset 13. Par leurs entourloupettes, les religieux annulaient la validité du commandement divin. La tradition dénaturait et éclipsait la parole de Dieu. Maintenant, Jésus va donner une réponse plus directe à la question de l'impureté. Il s'adresse d'abord à la foule et énonce un principe général applicable à tout le monde. Puis il expliquera le principe en privé à ses disciples. Je continue le texte. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Versets 14 à 16. Après un appel solennel à tous de bien l'écouter, Jésus révèle à la foule la vraie source de l'impureté. Une personne n'est pas souillée moralement par ce qu'elle mange, main lavée ou pas. Quelqu'un se rend impur par ses pensées, même s'il observe scrupuleusement des rites extérieurs, quels qu'ils soient. Jésus contredit l'enseignement des rabbins en affirmant que la faute vient de l'intérieur. C'est la désobéissance au commandement de Dieu qui souille et rend coupable. La pratique religieuse peut facilement devenir une pommade et un pansement qu'on étale en surface, alors que le mal est à l'intérieur. Ce comportement est pure hypocrisie. Je continue le texte. Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas, ne saisissez-vous pas que ce que je veux dire? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Jésus déclarait par là même que tous les aliments sont purs. » Versets 19 à 19. Avec ses disciples, Jésus insiste encore une fois sur le fait que rien de ce qu'on mange peut nous souiller moralement. Contrairement au cœur, c'est-à-dire l'âme de la personne, le ventre est un agent non moral. C'est comme un lion mangeur d'hommes. Il n'est pas moralement coupable de ses actes car il ne possède pas de sens du devoir et de la responsabilité comme l'homme. En disant « Jésus déclarait par là même que tous les aliments sont purs », Marc fait un commentaire. Il dit en substance que les lois alimentaires de l'Ancien Testament, qui avaient pour but pédagogique d'enseigner le respect de la distinction entre le pur et l'impur, sont suspendues parce que le Christ est venu et a réglé sur la croix le problème fondamental de l'impureté morale de l'homme, le mal dans son cœur qui le condamne. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.